Laurent Martin, 06 20 97 23 45. Je suis en voiture, j'ai 42 ans. C'est avec beaucoup d'émotion que je viens d'entendre votre émission. Je veux rendre hommage ici à mon grand-père, Georges Bagibaud, ouvrier peintre parisien, membre de la SFIO et de la Cour révolutionnaire de Marceau-Clivert. Dans notre famille, la question du Front populaire et cette mythologie a marqué toute mon enfance, toute mon adolescence et ma vie d'adulte aujourd'hui. J'essaie de transmettre ça à mon fils. Je suis indirectement en filiation avec tout ce qui s'est dit. Voilà, je suis très ému. C'est ce que je voulais exprimer sur l'antenne. Merci.
Le 1er mai 2005, mon papa, ouvrier algérien, décédait des suites d'un cancer. À l'heure où les Sarkozy, De Villiers et autres Le Pen pissent sur les immigrés et leurs enfants, nos parents, qui sont tués la santé à construire vos routes, vos maisons, vos voitures, meurent dans l'indifférence totale, et leur mémoire avec eux. Alors la France, aimez-la ou quittez-la, mon père, lui, il l'a quittée, ça fait maintenant un an, dans un obscur hôpital, sans aucun remerciement d'aucun gouvernement. Alors c'est vrai, nos parents, eux, n'étaient pas, ils n'ont jamais reçu de médaille, parce qu'eux n'étaient pas chefs d'entreprise, artistes, footballeurs, ils étaient simplement ouvriers. Et nous, leurs enfants, leurs fils d'immigrés, nous sommes fiers d'eux. Et à travers ce témoignage, je voulais remercier tous ces ouvriers de chez Renault, de chez Chausson, de chez Talbot, tous ces ouvriers immigrés qui ont construit la France. Et nous, leurs fils, leurs enfants, nous sommes fiers d'eux. Voilà, c'était midi et à très bientôt.
Oui, bonjour. J'aurais voulu, s'il vous plaît, connaître le nom du poème qui a été récité, qui s'appelle L'effort humain. Ça m'intéresse. Voilà. Merci infiniment. Au revoir.
Ce 1er mai, des Arabes avec des couteaux se sont entretués à la sortie d'une boîte. 43 voitures ont été brûlées dans la banlieue de Paris. La loi sur l'immigration veut sélectionner le bon grain du mauvais. 37 de personnes seulement sont allées manifester dans les rues. Et en revanche, 12 000 Français de France sont venus écouter Adolphe Le Pen à Paris. France Inter, La France France, Sécurité France et Youpla France.
Oui, Youpla France.
Quand la jeunesse se refroidit, le reste du monde claque des dents, écrivait Bernanos. À Limoges, pas de danger que la jeunesse se refroidisse. Aujourd'hui, 1er mai, elle était dans la rue pour fêter sans précario dans une manif inventive qui regroupait tous les anti-CPE d'hier, en particulier le collectif de lutte étudiants et lycéens, qui sera le mercredi 3 mai au repère des amis de la Bastille, j'y suis. C'est toujours à 18h30 au Woodstock Boogie Bar, avenue Montjovie à Limoges. Qu'on se le dise.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. Vous savez sans doute que la Coupe du Monde va se dérouler à Berlin du 9 juin au 9 juillet. 3 millions de supporters y sont attendus. Mais savez-vous que pour cette Coupe du Monde, un méga bordel de 3000 mètres carrés vient d'être construit à côté du stade de Berlin, avec zones clôturées autour de multiples cabanes ressemblant à des toilettes pour les prestations sexuelles. Bon, pour ces fins, 40 000 jeunes femmes importées d'Europe centrale et d'Europe de l'Est vont y être enfermées. Si le sport est une école de vie en commun basée sur le respect mutuel, la non-discrimination et l'égalité, il ne peut en aucun cas s'accompagner de la promotion publique de la traite et de la prostitution des femmes. Si vous êtes donc scandalisé par ce projet inique, vous pouvez signer sur Internet la pétition « Acheter du sexe n'est pas un sport ». Initiée par la Coalition contre le trafic des femmes. Voici les coordonnées www.mouvementduni.org ou par téléphone au Mouvement d'Uni qui vous enverra la pétition au 01 42 70 92 40. Tous ensemble, faisons de la résistance à la barbarie. Merci pour les nombreux signataires. Thank you.
Quelques messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis, trouvé ce matin même, avec grand plaisir et évidemment avant tout les réactions à l'émission d'hier sur la commémoration, hommage, célébration du Front Populaire il y a 70 ans. Il y a 70 ans, le 3 mai 1936, la France basculait dans un Front Populaire et les grèves commencèrent après. Les fameuses grèves qui conduisirent aux congés payés, aux différentes lois sociales, différents acquis, ce qu'on appelle aujourd'hui les acquis sociaux, sont le fruit de grèves commencées après l'élection du Front Populaire, si bien que le Front Populaire aurait bien voulu que ces grèves finissent plus tôt, d'où la phrase célèbre prononcée par Maurice Thorez, il faut savoir arrêter une grève. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui, comme l'a dit cet auditeur pour commencer, d'une manière un peu mythologique, comme nous l'avons fait hier, notamment avec le poème dit par Serge Reggiani, « L'effort humain ». Serge Reggiani en pleine forme, magnifique de beauté, de jeunesse, de force hein, dans cet enregistrement. Et évidemment, l'effort humain, c'est un texte de Jacques Prévert. On a longuement évoqué hier le groupe Octobre et ce que Prévert apporta à ce groupe de théâtre fameux qui illustre assez bien cette époque où on allait au-devant de la vie. C'est ce qu'on va faire à nouveau aujourd'hui, jusqu'à 18h sur France Inter, après les messages que voici, que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, voilà, c'est Clotilde. J'appelle de Haute-Savoie. Je n'ai pas été surprise du reportage sur l'entreprise Haute Fidélité d'Annecy. Et j'aimerais apporter un petit peu ma pierre à l'édifice. Il s'avère que la Haute-Savoie, du fait de son électorat, est un véritable creuset de l'antisocial en France. Non seulement les boîtes comme Haute Fidélité ne sont pas des exceptions, mais c'est un processus qui s'intègre dans un système plus important avec la complicité de l'État. En mai, en Haute-Savoie, aura lieu un procès très important, à l'issue duquel, si tout se passe bien, les prud'hommes, en tant qu'institution, pourra ne plus exister. Les faits. Un juge prud'homme à tout nom gagnait tous ses procès contre les patrons délinquants, et la justice civile l'accuse d'abus de biens sociaux ou publics, enfin je ne sais pas, car il passait trop de temps à préparer ses procès. Je rappelle que les juges prud'hommes ne sont pas des juges professionnels qui doivent se former sur le tas. Et pour faire bonne mesure et pour ne pas être taxé d'acharnement sur un seul homme, l'ensemble du collège des salariés a été convoqué au commissariat une journée avec perquisition à domicile. Imaginez le choc des familles et l'humiliation. De son côté, le collège des patrons refuse de siéger au tribunal. Et c'est un délit et il devrait être poursuivi par la justice. Eh bien non, bien sûr, la justice est complice des patrons délinquants. Les juges civils voyant ici dans cette affaire une opportunité de promotion. Enfin, tout ceci est condensé, bien sûr, pour vous dire que l'affaire des prud'hommes de Thonon, c'est un test pour voir si on peut attaquer l'institution des prud'hommes. Cela va aussi bien avec le CPE, le CNE, l'attaque du droit du travail. J'appelle tous les conseillers prud'hommes, tous les juges prud'hommes à faire front et à être solidaires de notre ami de Thonon. La CFDT a été en dessous de tout dans cette affaire. Silence dans les rangs, notre ami est déjà coupable pour la CFDT. Et que les syndicats soient unitaires dans cette affaire. En fait, bref, faites circuler l'info. Et Daniel, si tu veux faire un reportage à Thonon, nous t'attendons. Voilà.
Allô, c'est Marie-France du repère des amis de la Basse, j'y suis de Montreuil pour dire que notre réunion aura lieu ce soir chez Ratatam, rue Gallieni à Montreuil à partir de 19h. Eh bien, nous étions 22 la dernière fois. Combien serons-nous ce soir? Et nous vous attendons nombreux. À ce soir.
Oui, bonjour, c'est pour dire que le café repère de la Seyne-sur-Mer est toujours vivant, qu'il se réunira demain comme chaque premier mercredi du mois, depuis un petit moment maintenant, et qu'on vous y attend. Donc c'est à la Seyne-sur-Mer, à côté de Toulon, demain vers 18h30. Merci, au revoir.
Je suis en train d'écouter l'émission. Et j'ai entendu sur le répondeur que c'était le dernier jour pour répondre à la consultation gouvernementale sur les OGM par Internet. Or, l'ayant consulté moi-même, je viens d'apprendre qu'il est prolongé, que cette consultation est prolongée d'une semaine. Merci, au revoir.
Je vous appelle de Guadeloupe, il fait beau. Tout est beau, tout est calme, tout est sous contrôle. Les ouvriers de Danone sont en grève depuis le mois de juin 2005 et tout va bien. Le soleil continue de briller. Là, c'est beau. Tout va bien.
Oui, je suis Jean-Claude, habitant à Joinville-le-Pont dans le Val-de-Marne. Eh bien voilà, rendez-vous donc pour tous les amis de la Basse J'y suis pour un nouveau repère qui aura lieu donc le 4 mai, jeudi 4 mai à 19h à la Belote, un café sympathique, un café portugais sympathique, c'est aussi restaurant. Donc rendez-vous à La Fourchette, au bout de l'avenue Gallieni, juste avant d'arriver à Champigny-sur-Marne, donc La Fourchette, il y a rendez-vous à la Belote le jeudi 4 mai à 19h à Joinville-le-Pont. On discutera un petit peu de l'émission et de choses et d'autres. Voilà. Eh bien, à bientôt. Au revoir.
La liberté, c'est toute l'existence. Mais les humains ont créé les prisons, les règlements, les lois, les convenances. Ai-je raison? Alors disons. Vieux copain, la vie est belle. Quand on connaît la liberté, n'attendons plus, partons vers elle. L'air pur est bon pour la santé.
Allez, allez, joyeux, enfiévrés. Les gens partaient, ils disaient, oh, ben, dis donc, hein, pour une fois qu'on la tient un jour. Et ils voyaient la mer, ils voyaient tout, hein, pour la première fois. C'était quelque chose d'incompréhensible. Faut l'avoir vu. Faut l'avoir vu monter. Je vous le dis carrément.
Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis, avec Zoé Varier, sur le front populaire.
Flight number 2. Arriving from New York.
Alors, on avait créé une chanson. C'est « Regardez, regardez, les voilà, les femmes qui luttent contre la guerre. Elles sont déjà prêtes au combat pour éviter cette misère. Contre la guerre, cette maudite qui prend le sang de leur petit, qui prend le sang de leur petit. » Alors, il y a trois couplets, je ne me rappelle plus des autres. Alors, ça, on chantait. Alors, quand on chantait ça, oh, on avait un bravo. Oh, dis donc.
Vous chantiez ça où, dans les usines?
Oui, ou même dehors, à l'usine, aux portes des usines, on leur chantait ça.
Allons au devant de la vie. Elle chantait et il chantait aussi nos papis et nos mamies qui n'étaient pas encore nos papis et nos mamies qui avaient 20 ans. En ce temps-là, 20 ans fleuris, java, guinguette, casquette, et ils y croyaient. Drapeau, grand soir. Le 3 mai 1936, le front populaire l'emportait. Un de ces moments de notre belle histoire où la politique descend dans la rue, ou bien si c'est le contraire, c'est la rue qui descend dans la politique. Un de ces moments où la canaille entre en dissidence, où le prolo tire sur sa laisse, au point que son maître s'inquiète et doit lâcher du lest. Un de ces moments où le franchouillard, comme vous et moi, devient le peuple. Un de ces moments où les poumons se gonflent, où les banderoles bandent, où les gorges se nouent et les baisers se dénouent. C'est nous. Cette histoire, c'est la nôtre, qu'on le veuille ou non. Que reste-t-il de ce front populaire? Y a-t-il peut-être là, sous la poussière, des grains à moudre pour nos apathies d'aujourd'hui, peut-être des remèdes qui pourraient servir à nos dérives. Vous allez dire, oula, un furieux air de déjà-vu dans ces histoires anciennes. C'est bien possible, c'est bien possible. On va retrouver quelques échos de ce temps-là. Les voix, surtout, les cœurs encore battants de ceux qui alors avaient 20 ans et firent l'histoire. Ils étaient dedans, ils étaient sur la photo. Et c'était la première fois, leur première fois et la nôtre. La canaille descendait sur le pavé, prenait la clé des champs et de la mer sur son vélo en citant Victor Hugo. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent.
Mais vous savez, ce qui a été le plus pour nous, c'est de faire les 40 heures. Hein? Oh, et puis 15 jours de vacances. Non, mais vous imaginez, hein? Non, vous pouvez pas.
Oui. Le soir, on faisait quoi dans les auberges de jeunesse?
On faisait des veillées et puis on chantait. Du folklore, très peu de chansons de variété, disons. Sauf quand est arrivé Trenet.
Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante, je vais de faire mon château. Je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Je couche la nuit sur l'herbe des bois. Les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien. Je chante sur mon chemin. Les elfes, divinités de la nuit, les elfes couchent dans mon lit. La lune se faufile à pas de loup dans le bois pour danser avec nous. Je sonne chez la comtesse aujourd'hui, personne, elle est partie. Elle n'a laissé qu'un plat de riz pour moi, me dit un laquais chinois. Je chante, mais la faim qui me poursuit tourmente mon appétit. Je tombe soudain au creux d'un sentier, je défaille en tombant et je meurs à moitié. Et gendarme qui passait sur le chemin, gendarme, je tends les mains. Pitié, j'ai faim, je voudrais manger, je suis tout léger, léger. Au poste, d'autres moustaches m'ont dit au poste. Ah, mon ami, oui, 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 c'est vous le chanteur, le vagabond. On va vous enfermer, oui, votre compte est bon. Non, ficelle, tu m'as sauvé de la vie. Ficelle, sois donc béni, car grâce à toi, j'ai rendu l'esprit. Je me suis pendu cette nuit et depuis je chante. Je chante soir et matin, je chante sur les chemins. Je hante les fermes et les châteaux, un fantôme qui chante, on trouve ça rigolo. Et je couche la nuit sur l'herbe des bois, les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, ça va, j'ai plus faim, et je chante sur mon chemin.
Vous savez que Victor Hugo, ce qu'il a dit, ah, ceux qui vivent sont ceux qui luttent. J'y ai pensé souvent, on m'a appris ça à l'école primaire. Et alors, on avait une maîtresse formidable, une républicaine foncièrement patriote et tout. Et il y a eu la guerre de 14-18, j'ai vécu tout ça. Et après, j'ai vu tous les morts qui revenaient. On enterrait dans notre village, tous les enfants des écoles suivaient le... À chaque fois, on allait au cimetière conduire le pauvre soldat qui rentrait entre quatre planches. Mais tout ça, j'étais émue de tout ça. C'est incroyable. Et il y avait toujours Victor Hugo, il y avait toujours des choses comme ça. J'ai été vraiment bercée par ça à l'école, par cette défense de la liberté, l'amour de la patrie. Je savais toutes les chansons qu'on chantait à ce moment-là, j'avais tout ça par cœur, parce que ça me plaisait. Mais enfant, c'était ça. Et j'ai trouvé ma voix, là.
Une républicaine foncièrement patriote, Simone Ginot, elle habite dans une HLM à Saint-Denis, et c'est là qu'on est allé la voir et qu'on va passer cette heure avec Simone. Zoé l'a rencontrée. Simone va évoquer ce que fut le Front populaire, ce que fut son Front populaire auquel elle a participé. Vous allez voir, elle a lutté, elle s'est engagée. Aujourd'hui, elle y croit toujours, elle croit encore à tout ça, à un demain, à un avenir. Elle pense que il faut aller au-devant de la vie, comme on chantait à cette époque-là. Mais d'abord, un petit rappel du contexte dans lequel s'est produit cette élection de mai, du 3 mai 1936. Crise économique et politique en France suite à la crise de 29 aux États-Unis, pas seulement en France, dans toute l'Europe. Accroissement du chômage, difficultés de vie. En Italie, c'est le fascisme avec Mussolini. En Allemagne, en 1933, Hitler est légalement devenu le chancelier du Reich. Le Japon envahit la Mandchourie. Et Staline, l'homme de fer, est à la tête de l'URSS. Aujourd'hui, on peut mettre tout ça sur le même plan, on le sait. On sait aujourd'hui comment le Parti communiste français était manipulé par le pouvoir soviétique. C'est terrible, mais c'est ainsi. Et au temps du Front populaire, pouvait-on savoir ce qui se passait en Union soviétique ? La question a été longtemps posée. Aujourd'hui, on peut répondre oui. À l'époque, on pouvait répondre oui. Et entre les deux, on pouvait répondre oui. Parce que des témoins, des écrivains, avaient déjà fait connaître la réalité. Panaïti Strati, Boris Souvarine, Victor Serge, André Gide, pour ne citer que cela. Contexte qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est celui des anciens combattants de la boucherie de 14-18 qui représente un poids considérable. On est 18 ans plus tard dans la vie du pays. Une France où se développent des ligues d'extrême droite de différentes sensibilités, mais qui ont toutes en commun trois choses: la xénophobie, l'antisémitisme et l'antiparlementarisme. En 1933, c'est l'affaire Stavisky qui aura une grande importance, qui est Stavisky, disons, pour faire vite, un genre de Tapie, de Bernard Tapie de l'époque, un escroc qui monte des magouilles où trempent quelques politicards, comme on disait. Et puis un jour, on retrouve ce Stavisky suicidé, entre guillemets, et l'extrême droite prend ce suicide pour motif d'accuser la classe politique pourrie, tous pourris. Et le 6 février 1934, une grande manifestation à l'appel des partis d'extrême droite et des ligues, Action Française, Croix de Feu, Camelot du Roi, etc. Violence terrible, les pouvoirs publics sont dépassés, les manifestants entourent l'Assemblée nationale, la police tire, il y aura 17 morts et 1500 blessés, des scènes de rue les plus violentes depuis la Commune de Paris. Y avait-il risque de coup d'État fasciste ce jour-là en France ? On l'a cru longtemps, on a longuement polémiqué sur ce point. Aujourd'hui, tout ça est l'affaire des historiens, et dans leur majorité, ils disent que non, qu'il n'y avait pas une situation vraiment la possibilité d'un coup d'État fasciste ce jour-là. Mais en tous les cas, à l'époque, l'émotion fut très grande. Et en riposte à cette poussée, les partis de gauche et les syndicats de gauche organisent une journée de grève générale le 12 février 1934 qui connaîtra un succès considérable, sans précédent dans notre histoire, peut-être depuis l'affaire des Dreyfus. 1 million de Français manifestent contre le fascisme, font taire leur profonde division, comme diront les commentateurs. Et les historiens des mouvements sociaux en France nous disent que c'est là la première grève générale à finalité politique pour la défense de la République. Ce sont les mots qu'emploie notre Simone quand elle parle de ces républicains foncièrement patriotes. C'est en tout cas ce jour-là, ce 12 février 34, que naît véritablement le Front populaire.
Alors après, je suis venue travailler à Conflans-Sainte-Honorine où mon mari, qui était ajusteur, travaillait. Et là, j'ai eu du mal parce que on nous débauchait, on nous réembauchait, on nous débauchait, on nous réembauchait.
À cause de la crise.
À cause de la crise, oui. C'était en 1929. Et puis, un jour, avec une de mes camarades, de femme, elle avait son mari qui travaillait chez Hispano-Suiza, à la grande usine Hispano-Suiza à Bois-Colombes, où il y avait plusieurs milliers de travailleurs. Et il avait appris que les femmes gagnaient 4 francs 10 de l'heure, alors que là, à Conflans-Sainte-Honorine, nous gagnions 2 francs 80 de l'heure.
Et c'était une usine de quoi ?
On faisait des avions et des voitures de luxe, des voitures qui étaient vraiment pour les gens très, 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 très riches, voyez-vous. Alors, en février, 1er février 1934, nous étions embauchées toutes les deux. Je me levais très tôt, à 5 heures du matin, mais je revenais déjà très tard et bien fatiguée.
Combien d'heures vous travaillez par jour?
Eh bien, nous travaillions à ce moment-là 9 heures, 10 heures. Vraiment, j'étais exténuée. Et puis enfin, j'ai pu trouver un logement à Bois-Colombes, tout à côté de l'usine. Les choses allaient assez bien. Et j'ai commencé par faire tourneuse, mais comme ce qu'on appelait OS, c'est-à-dire ouvrière spécialisée. On travaillait aux pièces. Et mon premier travail a été de soulever des grosses pièces qui pesaient 15 kilos qu'il fallait tourner sur les tours. Alors je suis restée là pas mal de mois et on m'a sollicité pour faire de la soudo-brasure sur les sièges de soupapes d'avion, les petites soupapes. Alors s'il y avait une soufflure, la pièce, elle était nulle. Elle était rejetée.
Donc vous n'étiez pas payé pour cette pièce-là?
Non, 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 on n'était pas payé pour cette pièce-là. Et puis, on se faisait encore attraper, bien entendu. Nous brûlions toutes nos blouses, enfin. Et puis, on travaillait 6 jours sur 7. Vous imaginez? Moi, j'ai pensé des dizaines de fois. Mais ça fait toute ma vie comme ça. Hein, c'est le samedi, travailler. Le dimanche matin, il fallait faire la lessive, faire le ménage, s'occuper de l'enfant, mais c'était incroyable. Mais je savais pas où tourner la tête. Je me couchais à 2 heures du matin tous les jours. Oui, il fallait faire encore mieux.
Ça, il y avait le chrono.
Il y avait les chronos. Oui, vous savez, quelquefois, quand j'étais pas là, les chronos, on allait plus vite, hein, parce qu'il fallait faire refroidir les pièces dans de la poudre de mica. Ouais. Et alors on les cachait au fond. Ils n'ont jamais eu l'idée de venir voir s'il y en avait en réserve.
Vous les cachiez pour de temps en temps pouvoir moins travailler?
Voilà, c'est ça, pour un peu se reposer. C'est là qu'on chantait un petit peu.
Et qu'est-ce qu'on chantait?
Ah, ben, c'est à ce moment-là, c'était surtout Tino Rossi. J'aimais pas tellement Tino Rossi. Mes copines, elles aimaient bien ça. C'était très sentimental, vous voyez.
On est des clochards, on n'a pas d'abri, on vit dans les rues sans fin. On a le ventre vide et le cœur meurtri, et l'on crève de froid et de faim. Mais nous avons nos richesses malgré tout, le vent du soir, le printemps si doux, tout ça c'est à nous. Tant qu'il y aura des étoiles sous la voûte des cieux, il y aura dans la nuit sans voile du bonheur pour les gueux. Nous, les gars sans fortune, nous avons nos trésors. Seul un rayon de lune vaut le plus beau. Ici à la belle étoile, on sera toujours heureux, tant qu'il y aura des étoiles sous la voûte des cieux.
Il y a eu plusieurs femmes avant moi, qui était plus mûr que moi. Moi, je suis rentrée à 17 ans, là, dans cette usine. Mais qui avait voulu créer une section syndicale. Et il n'y a rien. Viré aussitôt qu'il la prenait. Rien à faire. Et les hommes, les vrais syndiqués, c'est pire, hein. Ils ne voulaient pas qu'on se syndique. Ce n'était pas notre affaire. Il fallait raccommoder nos chaussettes.
Mémoire de Simone, aujourd'hui 84 ans, au temps du Front populaire, les femmes n'avaient pas la place qu'elles ont prise depuis dans le travail. Mais il y en avait une qui avait pris sa place et qui était Simone Veil. Non pas notre Simone Veil d'aujourd'hui, mais une autre Simone Veil qui était une philosophe et qui avait choisi de s'engager auprès des ouvriers. On appellera ça les établis, ceux qui s'établissent et qui viennent travailler en usine. Elle fera ça pendant pas mal d'années. Elle s'engagera complètement. Elle écrira, elle témoignera sur la condition ouvrière et elle dira de cette époque, il s'agit, après avoir toujours plié, tout subi, tout encaissé en silence pendant des mois et des années, d'oser enfin se redresser, se tenir debout, prendre la parole à son tour, se sentir des hommes. Voilà, c'est tout simplement ce qui s'est passé pendant cette époque du Front populaire, même si, bien sûr, il s'est passé beaucoup d'autres choses. Par exemple, il est bien possible que nos grands-mères, à cette époque, soient plus émues par les trémolos de Tino Rossi que par les discours de Maurice Thorez ou de Léon Blum. Et c'est ainsi, et c'est ça qui nous plaît, c'est ainsi là, c'est-à-dire que il se passe autre chose que les choses qu'on raconte, que celles que l'histoire retient. Sur la condition ouvrière, voilà ce dont Simone se souvient.
Pas de temps pour manger.
Pas du tout.
Mais on avait 20 minutes pendant une ou 8 heures. Officiellement, on avait 20 minutes.
Et pour aller aux toilettes?
Ah, mais alors pour aller aux toilettes, il n'y avait pas du tout de verrou aux toilettes. Et parce qu'ils savaient qu'on se rencontrait aux toilettes à deux ou trois, puis on discutait tout bas. On racontait nos petites histoires, nos ennuis, tout ça, du travail et autres.
Parce qu'il y avait tellement de bruit dans l'atelier que vous ne pouviez pas parler avec vos voisins.
Pas du tout. Puis on n'avait pas le droit. Oh là là, on n'avait pas le droit de parler. Et alors, il fallait mettre un chiffon sur la porte pour faire voir qu'il y avait quelqu'un, quand même. Mais, d'abord, nos gardiens, c'était des gardes qui nous surveillaient, là. Eh bien, il y avait Médor, on les appelait comme ça. Et, oui, eh bien, quand il voyait qu'on était, il voyait bien, lui, qu'il y en avait une, deux ou trois qui étaient partis depuis longtemps. Eh ben, il venait, il ouvrait la porte. Il nous trouvait à deux, à trois. Alors, il nous disait, bon, vous n'avez pas terminé votre conversation. Eh bien, vous reviendrez demain. On perdait notre après-midi.
Ah, il vous mettait dehors pour la fin de journée?
Ah oui. Mais même courir. Je me souviens que on courait, parce que à midi, on avait le droit à 20 minutes, c'était à ce moment-là. Et bien, on courait pour aller vite manger chez nous, pour pas payer trop cher. On essayait de gagner le plus possible le temps. On n'avait pas le droit de manger le matin, un petit crouton, quelque chose. On arrivait à 6 heures du matin, vous vous rendez compte? On mangeait pas, on n'avait pas le temps. Et alors, on cachait dans nos chiffons, qui étaient plus ou moins propres, un petit quignon de pain. Et puis on mangeait comme ça en vitesse, parce qu'on était toujours, nous les femmes, on était vraiment repérées. Les hommes encore, j'avais le droit encore de boire un coup, tout ça, mais pas nous, hein. Il y avait même pas un lavabo ni un robinet d'eau pour pouvoir tous les mois, il fallait bien quand même essayer de se nettoyer un petit peu, hein, quand on avait les règles et tout. Mais on n'avait pas ça, vous imaginez? C'était vraiment atroce. On avait une vie, vraiment. Ah oui, on était vraiment très malheureuses. Toutes.
Le taylorisme à la française, le travail en miettes, comme on appelle ça à cette époque, il ne faut pas oublier que cette année-là, en 1936, sort sur les écrans Les Temps modernes de Charlie Chaplin. Alors, j'évoquais tout à l'heure le 12 février 34, comment 6 jours exactement après les manifestations, l'extrême droite à Paris, les partis de gauche et les syndicats de gauche se font un grand appel à une manifestation qui sera un succès, qui sera la naissance du Front populaire. Eh bien, notre Simone était sur la photo.
Le chef de service a passé dans l'atelier la veille pour demander qui irait à cette manifestation. Et alors, les camarades, j'étais encore dans l'atelier, là, on dit, il faut venir avec nous, il faut venir. Les hommes sont passés, les responsables syndicaux aussi. On dit, il faut venir. Alors, j'y suis allée, moi. J'avais peur, parce que j'ai dit quand même. Il m'a dit, vous savez, faites attention, hein.
parce que vous êtes nouvelle, hein, si vous voulez vous faire mettre à la porte, tant pis, j'ai dit en moi-même, c'est ma conscience. Pourtant, j'étais vraiment pas politisée du tout à ce moment-là. Mais quand je suis allée à ces manifestations, oh, j'ai découvert tout. Toute ma vie future. C'est vrai, hein? Ah oui, 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 c'est vrai. Vous savez, avec cette guerre d'Espagne, tout ça, on a mieux encore compris, mais sur le coup, ça, vous savez, tout ce que j'ai fait après, je crois que c'est à partir de ce jour-là, c'est le déclic. Ah oui, c'est le déclic de ma vie. Ah oui, 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 tout à fait. Et le lendemain, il y a eu une grande réunion chez Hispano Suiza. C'était une grande, grosse boîte. Hein. Et alors, on nous a félicités. Hein, vous voyez, on a fait reculer les hordes fascistes, etc. Alors, j'étais heureuse comme tout, moi. J'ai dit, j'ai fait mon devoir. Oui, j'ai vraiment... c'est ma naissance, là. Vous voyez, je commençais à voir clair. Ah oui.
Alors, Simone commence à voir clair, elle n'est pas la seule, mais contre cette montée du Front Populaire, évidemment, les ligues et les mouvements d'extrême droite se renforcent. Les Croix de Feu compteront 450 000 membres en 1936, et avec des mouvements comme Solidarité Française, Jeunesse Patriote, etc., eh bien, tout ce petit monde se regroupe en un Front National. Et oui, ça s'appelait le Front National, et on se retrouvait pour la fête de Jeanne d'Arc. Furieuse air de déjà-vu dans ce qui se passait en 1936. Certaines ligues se livrent à des entraînements militaires, il y a de violentes campagnes antisémites dans une presse d'une férocité et d'une abjection complète, telles que « Gringoire, je suis partout », etc. Et de l'autre côté, le mouvement antifasciste se développe, alors c'est la main tendue d'un côté, la main tendue en l'air, pas la main tendue pour se saluer, c'est-à-dire le salut fasciste, et puis de l'autre côté, c'est le point levé qui apparaît en fait en 1934, jusque-là, si j'en crois les historiens, eh bien ça n'existait pas. Alors, les choses vont avancer de cette façon, mais le souffle et le dynamisme sont du côté du Front Populaire, le 14 juillet 1935, il y a une grande manif pour le pain, la paix et la liberté. Et puis, le 3 mai, au deuxième tour, le Front Populaire l'emporte avec une avance de 40 sièges. Alors, c'est l'explosion sociale, c'est, selon les termes même des journaux de l'époque, c'est une conscience collective qui se forge. Il y a les trois flèches parallèles, c'est la SFIO, il y a le bonnet phrygien, les radicaux et la faucille et le marteau, c'est les communistes. Léon Blum, qui est le leader du parti qui a remporté le plus de voix, prend la tête du gouvernement. Mais en bon légaliste, il attendra le début juin. Et c'est entre-temps, spontanément, que les grèves vont commencer. Le point de départ sera le 1er mai. Le 1er mai, à cette époque, en 1936, n'était pas encore chômé. Et des ouvriers qui se sont absentés ce jour-là, pour des raisons évidemment symboliques, eh bien, sont licenciés. Alors, ce sera le prétexte au démarrage de ces grèves, encore une fois spontanées, qui vont dépasser le cadre syndical, le cadre des partis. Ce sera une occupation joyeuse, une pagaille, un carnaval, qui aura tout un aspect libérateur, libertaire, et qui constituera quasiment... une fête en soi. Au départ, encore une fois, aucune consigne n'a été donnée. Les grèves de 36 continueront jusqu'en juin, et on se souvient de la phrase historique de Maurice Thorez, leader du Parti communiste français, qui dira « Il faut savoir arrêter une grève ». Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Simone se souvient des occupations d'usines.
Alors, la première journée, les hommes ont occupé l'usine, complètement. Et le lendemain, nous, les femmes, pas toutes, hein, mais une partie, une certaine frange de femmes qui étaient bien conscientes qu'il fallait aider, qu'il fallait s'unir, on a décidé aussi de garder l'usine. On a couché à l'usine. Et alors, on leur a fait de la cuisine. Les uns allaient chercher des pommes de terre, des autres de la viande, du pain, tout ça. On s'est organisé.
Et avec quel argent vous achetiez?
Eh bien, avec notre argent. Puis il y avait des camarades qui ont dit « je vais vous prêter un peu, on va prêter de l'argent. » Et puis après, on fera les comptes, après. Hein? Tout le monde était tout à fait disposé à faire le maximum. On est allé même demander, nous, pour les femmes et les enfants qui restaient à la maison, il fallait pas non plus les oublier. Vous savez, on vivait à la semaine. On attendait la paye pour refaire des provisions. On n'avait pas d'argent, rien. On a été dans la rue collecter. Il y avait beaucoup de gens qui nous donnaient, hein, parce qu'ils comprenaient, on leur disait pourquoi. On gagnait pas suffisamment, mais il y avait des gros profits pour l'usine. C'est la même rengaine que maintenant. Hein. On ne pouvait pas dire autre chose. Alors, voilà, les gens nous donnaient.
Et puis, il y a des commerçants qui vous donnaient aussi de la nourriture.
Oui, de la nourriture, oui. Surtout des pommes de terre. Alors ça, on en a mangé. des patates. Et du pain. Du boulanger qui nous donnait du pain.
Mais comment vous vous organisiez dans l'usine pour faire la cuisine pour tout le monde? C'était un sacré truc.
Oui. Mais on avait des chaudronniers. On a toutes les corporations chez Hispano-Suisin. Ils avaient installé des cuisines. Des cuisinières, des immenses cuisinières.
Dans l'atelier?
Non, pas dans l'atelier, dehors, dans l'immense cour. Et seulement des piquets avec des toiles goudronnées pour abriter, quoi, la cuisine. Et puis des bancs, les menuisiers nous ont fait des centaines de bancs pour qu'on s'assoie. Et puis on avait aussi les deux dimanches qu'il y a eu grève, on avait invité toutes les familles qui voulaient venir à faire un grand déjeuner, un immense déjeuner. Tout le monde est venu manger avec du beefsteak et des frites et des fruits.
Oui. C'était la fête, là.
Ah oui, c'était la fête. On a chanté et puis il venait des artistes chanter.
On dansait aussi,
on
non?
On dansait à l'accordéon. On avait des musiciens parmi nos...
Parmi les ouvriers?
Oui, oh oui.
Et on dansait quoi?
Ah ben à ce moment-là, il y avait encore de la Paul 4, Oïka, les lanciers, les valses. Ah ça, la valse, c'était populaire. Hein.
Bien gosse, gosse, on va faire un tour, viens faire la noce et tourner toujours. Bien gosse, gosse, on
le
va
gouvernement,
faire...
le Front populaire est constitué. Son programme est le programme du Front populaire. Parmi les projets, il demandera aux deux chambres de voter avant leur séparation. Il y a la semaine de 40 heures, les contrats collectifs, les congés payés, c'est-à-dire les principales réformes réclamé par le monde ouvrier.
Il y a de grandes flaques de sang sur le monde. Où s'en va-t-il tout ce sang répandu? Est-ce la terre qu'il boit et qui se saoule? Drôle de soulographie, alors. Si sage, si monotone. Non, la terre ne se saoule pas. La terre ne tourne pas de travers. Elle pousse régulièrement sa petite voiture, ses quatre saisons. La pluie, la neige, la grêle, le beau temps. Jamais elle n'est ivre. C'est à peine si elle se permet de temps en temps un malheureux petit volcan. Elle tourne, la terre. Elle tourne avec ses arbres, ses jardins, ses maisons. Elle tourne avec ses grandes flaques de sang. Et toutes les choses vivantes tournent avec elle et saignent. Et elle s'en fout, la terre. Elle tourne. Et toutes les choses vivantes se mettent à hurler. Mais elle s'en fout. Elle tourne. Elle n'arrête pas de tourner. Le sang n'arrête pas de couler. Où s'en va-t-il, tout ce sang répandu? Le sang des meurtres, le sang des guerres, le sang de la misère, et le sang des hommes torturés dans les prisons, le sang des enfants torturés tranquillement par leur papa et leur maman, et le sang des hommes qui saignent de la tête dans les cabanons, et le sang du couvreur quand le couvreur glisse et tombe du toit, et le sang qui arrive et qui coule à grands flots avec le nouveau-né, avec l'enfant nouveau, la mère qui crie, l'enfant pleure, le sang coule, et la terre tourne. La terre n'arrête pas de tourner, le sang n'arrête pas de couler. Où s'en va-t-il, tout ce sang répandu? Le sang des matraqués, des humiliés, des suicidés, des fusillés, des condamnés, et le sang de ceux qui meurent comme ça, par accident. Dans la rue passe un vivant, avec tout son sang dedans. Soudain le voilà mort, et tout son sang est dehors. Et les autres vivants font disparaître le sang. Ils emportent le corps, mais il est têtu, le sang. Et là où était le mort, beaucoup plus tard, tout noir, un peu de sang s'étale encore, sang coagulé, rouille de la vie, rouille des corps, sang caillé, comme le lait. Comme le lait quand il tourne comme la terre qui tourne, avec son lait, avec ses vaches, avec ses vivants, avec ses morts. La terre qui tourne avec ses arbres, ses vivants, ses maisons. La terre qui tourne avec les mariages, les enterrements, les coquillages, les régiments. La terre qui tourne et qui tourne et qui tourne. Avec ses grands ruisseaux de sang.
Ça aura été une belle embellie, mais assez vite, les nuages reviennent. Il y a la question de l'Espagne. Le Front populaire espagnol se trouve en lutte contre le franquisme. On sait comment le Front populaire ne prendra pas position. Et notre Simone, que nous retrouvons en 1938, qui a été licenciée parce qu'elle elle avait une activité syndicale, ne se tournera, elle, vers une aide, celle qu'elle pourra, auprès du Front populaire espagnol.
Après la guerre d'Espagne, on a pris des petits Espagnols à notre charge. On a parrainé 30 petits-enfants espagnols. On donnait une heure de travail tous les 15 jours à la paye.
Pour l'Espagne.
Pour l'Espagne. Pour les petits, on les a fait venir. Et nous avons loué une maison, une grande maison, à Saint-Germain-en-Laye, justement. Et puis, il y avait trois femmes qui accompagnaient les 29 enfants et qui sont restées avec eux pour leur faire les élever, en somme. Hein. Mais ils passaient l'après-midi du dimanche avec nous. Ça a été comme ça des mois. Et alors, moi, j'en ai pris un d'entre eux chez moi, parce que mon fils était tout seul, parce que je ne voulais pas avoir d'enfant avec mon ex-mari, l'autre, parce qu'il buvait, enfin, tout seul. Et alors, il avait un petit frère, comme ça, et Juanito, il s'appelait Jean comme mon fils.
Juanito.
Oui, Juanito. Il est là aussi sur la photo. J'avais été cachée dans les soutes de bateaux, et on les amenait comme ça, clandestinement, avec le syndicat de la CGT, vous voyez. On était allés les chercher à Paris. Et moi, j'étais responsable de ces 30 enfants. C'était à moi qu'on donnait l'argent et que, enfin, je faisais tout ce qu'il fallait pour entretenir les petits.
Et qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces enfants, aujourd'hui?
Eh bien, ils sont repartis. Quelques-uns les ont gardés, quelques couples. Mais moi, c'était pas facile. Mais de toute façon, la police est venue les chercher chez moi. Juanito était parti en vacances avec mon fils dans la maison des métallurgistes Pierre Timbaud. Et la police, on m'avait déjà... la police française était venue chez moi me dire « Il faut rendre votre enfant. Franco veut que l'on fait revenir les enfants. » Et moi, j'avais pas répondu du tout. Mais un beau jour, la police est venue pour le chercher. Le lendemain, il devait partir avec un convoi d'enfants espagnols.
Et ça, c'était en quelle année?
Ben, c'était en 1939, un petit peu avant la déclaration de la guerre ici.
Et vous étiez menacée si vous aviez pas donné votre enfant?
Ah, mais oui.
Juanito.
Ah, mais oui, j'aurais été emprisonnée. Oui, j'étais le conduire à la guerre.
C'est comme ça. Alors, à Noël, il avait eu un vélo. Et mon fils aussi, tous les deux, ils avaient eu un vélo. Alors, il voulait emmener sa bicyclette, bien sûr. On l'a emmené, on l'a même à la gare. Et, tout a été fait pour qu'il parte avec. Et puis, il voulait que je lui achète une casquette, une bicéra. Eh bien, la casquette, vous savez, ils ont ouvert les portières pour nous dire au revoir. Tout le monde pleurait. Sa casquette, elle s'est envolée. J'ai récupéré la casquette. Oui, mais il n'avait pas sa casquette sur la tête. Elle s'est envolée de sa tête. Oui, ce sont des petites choses. Mais quand même, hein. Oui.
Alors, j'étais 4 ans sans avoir de nouvelles pendant la guerre. Moi, j'étais clandestine. Je n'allais pas faire de démarche ni quoi que ce soit.
Vous étiez clandestine parce que vous étiez dans la résistance.
Oui. Combattant volontaire de la résistance, oui. Bon, et alors, voilà, je dois vous dire qu'après la guerre, à la libération, j'ai décidé de faire mes études d'infirmière. Alors, je suis donc, j'étais infirmière, puis j'ai dirigé la maternité de Saint-Denis en m'occupant de la méthode psychoprophylactique d'accouchement sans douleur. Et là, j'ai rencontré une petite maman qui venait accoucher. Alors, en parlant avec cette petite maman, tout ça... Elle me dit, mais moi je suis d'Espagne, enfin j'étais parrainée par telle personne. Et puis, où habitiez-vous? Ben Bilbao, elle était la voisine de Juanito. Mmh. Elle était restée en France, elle avait été parrainée par un couple ici de Levallois. J'ai retrouvé Juanito, qui était, cette fois il était grand, hein, il était marié, il venait de se marier. Et voilà, on a raccroché comme ça, et on est allé chez lui, il est venu chez nous en vacances, et on s'est créé tous les ans.
Ah, c'est une belle histoire, alors.
Ah, oui. Oui. Vous voyez qu'il y a du bonheur, et il y a du malheur, mais il y a du bonheur aussi, dans la vie. Il ne faut jamais désespérer, c'est pour ça que je suis restée quand même optimiste.
C'est une nouvelle diffusion de Front Populaire, un reportage de Zoé Varier pour l'émission Là-bas si j'y suis de Daniel Mermet. Merci à Simone et à Jacques. À lire La France du Front Populaire de Jacques Kergoa aux éditions La Découverte. Et surtout à ne pas manquer ce soir à 20h à La Renverse, une pièce de Michel Pinavet, mise en scène par l'auteur sur le monde du travail à l'heure de la mondialisation libérale. C'est au théâtre artistique à Thévin, au 45 bis, rue Richard Lenoir, dans le 11e à Paris. Cette pièce sera jouée jusqu'au 21 mai. Pour les réservations, un numéro, le 01 43 56 38 32. Toutes ces informations sont disponibles sur le site de Radio France, à la rubrique émission, là-bas si j'y suis. À la technique, aujourd'hui, Sophie Moreno et Christophe Papon. Cette émission a été réalisée par Antoine Chao et Yann Chouquet, assisté de Pascal Pascarello, et le chef du répondeur, c'est Christophe Imbert. Vous pouvez le joindre au 01 56 40 37 37.